France Musique.
Ben, qu'est-ce que tu pêches ?
La musique.
Ah ben voilà une drôle d'idée.
Ça doit être un musicien, comme il est sensible.
Vivaldi déclenche les passions dans le public.
Il a fini par perdre son prénom, justement, avec un nom pareil.
Il faut voir dans Vivaldi l'ambitieux.
C'était le punk de l'époque, pour moi c'est rock.
Voilà comment j'entends Vivaldi, c'est-à-dire comme la vie, la force de la vie absolument irrépressible.
Je suis Antonio Vivaldi.
Vivaldi fut inhumé le 28 juillet 1741 au cimetière de l'hôpital, qui est le cimetière des pauvres. On sait que ses funérailles ont coûté 19 florins et 45 rezers. Pour cette modeste somme, il eut droit à une sonnerie de cloche, à 6 porteurs de civière et à 6 enfants de cœur.
C'est à Vienne, dans la misère et dans l'anonymat le plus total, que meurt le grand compositeur vénitien Antonio Vivaldi à l'âge de 63 ans. Cet Italien qui, de son vivant, a conquis l'Europe entière et même au-delà, ce prêtre qui a défié les mœurs de son époque et qui fut tour à tour violoniste virtuose, enseignant, compositeur et impresario. Comment expliquer la disparition discrète de celui que l'on surnommait « il prete rosso », le prêtre roux, en raison de sa crinière flamboyante et l'éclipse de son œuvre pendant plus de 2 siècles, alors qu'elle résonne aujourd'hui sur les scènes du monde entier? Raconter la vie de ce génie à la fois déterminé et fragile, voici le défi de cette saga musicale. Historiens, biographes et interprètes de renom se joignent à cette enquête. Au plus proche d'Antonio Vivaldi et de sa musique, ravivons le feu vivaldien et imprégnons-nous de son énergie fulgurante.
Premier épisode. Antonio Vivaldi, la flamboyance juvénile.
Vivaldi est né le jour d'un tremblement de terre, le 4 mars 1678.
Sylvie Mamy, musicologue.
Il est né à la maison, un accouchement assez difficile, et par peur que l'enfant meure, l'accoucheuse avait baptisé l'enfant avec de l'eau. Ensuite sont nés 6 autres enfants, dont 2 ou 3 n'ont pas survécu.
Vivaldi est né dans les environs de cette place qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle San Giovanni in Bragora.
Patrick Barbier, historien de la musique.
Où on voit un petit campo tout à fait charmant, où les enfants encore aujourd'hui jouent au ballon. On imagine très bien le petit Antonio jouer aussi avec ses petits camarades quand il est petit. On ne sait absolument pas où est sa maison natale, mais on sait que c'est tout près de ce fameux campo. Et sur ce campo, il y a l'église dans laquelle il a été baptisé. La majorité des gens de Venise, 85 ou 90% sont des gens du peuple, c'est-à-dire des gens tout à fait ordinaires, qui ne sont pas du tout dans la misère. La majorité des gens vivent de l'activité maritime, si je puis dire, hein, c'est-à-dire la navigation, les gondoles, la pêche, les transports publics qui se font sur l'eau, et puis aussi l'arsenal, hein, qui est la grande activité de Venise.
Ce milieu de l'arsenal où il vivait est un monde vibrant de travail, de bruit, d'atmosphère. Ces milliers de gens qui travaillaient là. Puis il y avait aussi beaucoup d'étrangers, il faut dire, hein, dans ce quartier. Il y avait des Arméniens, des Dalmates, des Grecs. Donc c'était grouillant d'influence, d'activité.
C'est une population très très modeste à laquelle appartient Vivaldi.
Son papa Giovanni Battista n'était pas originaire de Venise, il était de Brescia. Et sa maman, en revanche, Camilla, elle, était bien vénitienne. À l'origine, le papa était barbier. Barbier et violoniste, ça peut paraître curieux aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez courant que les barbiers qui peignaient les perruques, coupaient les barbes, jouent du violon. Et il est évident que c'était son papa qui lui a appris le violon, car le papa avait constitué une petite association de musiciens, San Cécile, qui avait son siège juste à l'entrée de l'arsenal. Et puis Giovanni Battista devait être un excellent violoniste étant donné qu'il a été intégré dans la chapelle du Doge à Saint-Marc. Et donc le petit Antonio, qui était le premier enfant de ce couple, était vraiment au bon endroit pour apprendre le violon.
Vers cette même époque, le père d'Antonio, pour faire vivre sa nombreuse famille, employait ses soirées à jouer du violon au théâtre Chrysostome, où l'on donnait des spectacles d'opéra. Antonio accompagnait son père aux répétitions et découvrait ainsi l'univers étrange et merveilleux du théâtre. Les décors ingénieux, les machineries compliquées, les costumes somptueux, les personnages, chanteurs et danseurs transformés en dieux de l'Olympe ou en héros de la mythologie. Quelle nourriture pour l'imagination d'un enfant.
Patrick Barbier.
C'est vrai qu'à Venise, la musique a toujours été très importante. On apprend la musique avec un père, un oncle, un frère. On n'a pas besoin d'aller au conservatoire. On apprend comme ça naturellement le violon, la mandoline. On chante énormément à Venise. On chante sur les gondoles. Un deuxième gondolier reprend la mélodie du premier, puis chante à deux voix, puis un autre à trois voix. Et puis voilà, on a un Français, Ange Goudard, qui est un aventurier de l'époque, qui nous dit « Je pourrais réunir 40 gueux, peut-être aujourd'hui on dirait des SDF, je sais pas, enfin 40 personnes les plus misérables qui soient sur la place Saint-Marc et on entendrait quelque chose de plus beau que ce qu'on entend à l'Opéra de Paris. » Donc la musique est partout, c'est une ville de grande tradition musicale depuis très très longtemps. La musique est dans les palais, elle est dans la rue et puis elle est dans toutes ces salles de théâtre très dynamiques.
Léonore de Récondeau, écrivaine.
À cette époque-là, dans la première décennie du XVIIIe siècle, Venise est un peu sur le déclin économique. Elle a perdu son aura d'argent des siècles précédents parce qu'elle n'est plus le centre d'Europe, elle n'est plus le centre névralgique où arrivaient les bateaux, les épices, etc. Elle a perdu énormément de ses colonies, mais lui reste la fête.
C'est le dernier siècle d'une république qui a duré 10 siècles et c'est un siècle, il faut le reconnaître, qui court vers sa perte. Et je pense que les Vénitiens de l'époque en étaient conscients. C'est une ville qui ne produit plus rien sur le plan économique, qui ne produit plus rien sur le plan militaire, etc. Et c'est une ville qui vit de ses rentes et elle vit de ses rentes depuis plus de 2 siècles. Donc fatalement, on se doute bien que ça ne peut pas durer éternellement. Et beaucoup de Vénitiens avaient conscience qu'ils étaient dans une sorte de déclin inéluctable sans savoir quand ce serait. Et ça va arriver à la fin du 18e avec l'arrivée de Bonaparte. Mais indépendamment de ça, justement, c'est un peu une ville qui va connaître l'agonie dans une folie de plaisir, de divertissement, de fêtes. Venise ne rayonne plus sur rien du tout. Mais la constance des fêtes a été à Venise un gage de stabilité. Eh bien, pour les Vénitiens, c'est l'impression que Venise est éternelle, elle durera toujours et on peut être tranquille dans une ville aussi stable. On ne s'est jamais tant amusé qu'au XVIIIe siècle. Et la licence et le libertinage sont un petit peu partout. Mais ils sont autorisés dans des cadres très particuliers qui sont les mois de carnaval.
Au milieu de grisailles, d'opalescence, de reflets crépusculaires, de sanguines éteintes, de fumée d'un bleu pastel, avait éclaté le carnaval en jaune-orange et jaune-mandarine, en jaune-canari et vert grenouille, en rouge grenat, rouge de rouge-gorge, rouge de coffre chinois et jaune safran, en devise et cocarde, en torsade de couleurs comme berlingot et enseigne de barbier, avec un tel fracas de cymbales et de crécelles, de tambours de basque et clairons, que tous les pigeons de la ville, d'un seul envol, qui l'espace de quelques secondes obscurcit le firmament, s'enfuirent vers des rivages lointains.
Le carnaval à Venise, c'est 6 mois par an. Et donc, il y a quand même une fantaisie dans cette ville, donc une sorte de foisonnement de surproduction artistique, de tourbillon, d'effervescence musicale qui faisait venir énormément de gens.
N'oublions pas qu'avec un carnaval qui dure près de 6 mois, les Vénitiens passent la moitié de l'année à pêcher et l'autre moitié à se faire pardonner leur péché.
Le carnaval de Venise est une chose unique au monde parce qu'il commence début octobre, qui s'arrête le 15 décembre pour Noël, qui reprend le 26 décembre dès que Noël est passé, on ne veut pas perdre de temps, jusqu'au Mardi Gras, et enfin qui reprend encore après le carême au moment de l'Ascension, qui est la plus grande fête de Venise. Donc vous pouvez vous costumer, vous pouvez vous masquer, vous pouvez jouer votre argent dans le casino, vous pouvez bien sûr regarder des spectacles avec les enfants, des marionnettes, des funambules, vous pouvez assister à l'opéra et à toute la production théâtrale de l'époque, qui ne fonctionne qu'en période de carnaval. Donc c'est une gigantesque fête à ciel ouvert. C'est de loin la ville d'Italie qui a le plus attiré les visiteurs. Des dizaines de milliers de personnes arrivent chaque année à Venise au XVIIIe siècle pour connaître à la fois les plaisirs multiples de cette ville et profiter de ce qui paraissait extraordinaire, c'est cet incognito que procurait le masque. Vous pouvez entrer masqué dans les églises, vous pouvez aller masqué au théâtre. Le masque n'est pas quelque chose qui serait un signe de licence et de dévergondage. Non, le masque, c'est une autorisation qui est séculaire à Venise pendant les mois de carnaval. Et comme on pouvait se masquer tant qu'on voulait, ben forcément, il y a une forme d'anonymat. Et vous pouvez donc aller partout, dans des lieux sûrs ou moins sûrs, mais en étant anonyme.
Venise était donc une ville très accueillante. Et on peut imaginer le charme qu'elle avait pour les jeunes garçons comme Vivaldi qui étaient nés et qui vivaient.
C'est donc dans cette ville bouillonnante qu'Antonio Vivaldi fait ses premiers pas. Ses parents lui offrent une éducation musicale, mais aussi chrétienne. À 15 ans, il reçoit la tonsure. Deux ou trois mèches de cheveux sont coupées sur le sommet de son crâne en guise de rite d'entrée dans l'état ecclésiastique. Mais il ne délaisse pas pour autant son violon. À 18 ans, il intègre la guilde des instrumentistes, la dénommée Arte dei Sonadori, qui rassemble les musiciens professionnels. C'est dans ce cadre qu'il est invité cette même année par les musiciens de la prestigieuse chapelle ducale à Saint-Marc afin de se produire pour la messe de minuit. Et déjà le miracle vivaldien opère. La finesse et l'impétuosité de son jeu éblouissent le public vénitien. À 25 ans, il entre officiellement dans les ordres tout en continuant à donner des concerts.
Le premier enfant, souvent, devenait prêtre. On avait un besoin énorme de prêtres à Venise, étant donné que c'était plein de petites chapelles, de partout, enfin, on célébrait des messes. Et c'était aussi une manière de lui assurer une sécurité et puis aussi de lui assurer une éducation.
Patrick Barbier.
Dans cette famille très modeste, ce n'est pas étonnant qu'on ait poussé Vivaldi à faire des études de prêtre, parce que c'est un moyen d'échapper aux dépenses d'une éducation qui va être prise en charge par l'Église, et c'était dans beaucoup de familles une solution justement pour échapper à la pauvreté. Il a été d'ailleurs ordonné prêtre, il n'a pas exercé ce métier, mais il est resté prêtre. Mais Vivaldi n'est pas modeste, il est quand même un petit peu carriériste, il espère être célèbre.
Fabio Biondi, violoniste et chef d'orchestre.
Toute sa proximité avec l'Église était d'une certaine manière fausse. C'était pas un homme d'Église comme on l'imagine aujourd'hui. C'était un homme narcissiste. C'était quelqu'un extrêmement attaché à gagner bien sa vie.
Je crois que c'est un homme qui a surtout mené sa vie de musicien et de compositeur, qui a été très très content d'échapper aux règles d'une vie religieuse très stricte.
Fabio Biondi.
Le début de sa carrière est le miroir d'un talent naturel parce qu'il n'a pas étudié avec de grandes personnalités. Donc je pense que c'était un talent naturel extraordinaire. Dans les guides de Venise du début du 18e, le grand violoniste de Venise était Vivaldi. Vivaldi était extrêmement connaissant de sa qualité de grand virtuose et il le démontrait volontiers. Donc je m'imagine sa façon de jouer extrêmement démonstrative. Je dirais même, peut-être, on ne sait pas, mais un peu vulgaire.
Il s'est fait une notoriété vraiment comme violoniste.
Sylvie Mamy.
Cette virtuosité, elle se développait surtout dans l'improvisation. C'est quelque chose que les musiciens ont complètement oublié. Tout au long du 19e siècle, on a oublié que la musique n'était pas seulement lire une partition et reproduire exactement ce qu'il y avait sur la partition, mais qu'il fallait aussi y mettre de sa propre créativité.
Roland de Candé, musicologue.
Tous ceux qui l'ont entendu et vu jouer insistent sur cette
extraordinaire énergie, cette extraordinaire agitation quand il joue.
Quand je me l'imagine, je crois qu'il faisait entièrement corps avec son violon. C'est quelqu'un qui devait être un homme théâtre, qui bougeait. Voilà, on ne parle pas beaucoup du corps de Vivaldi, mais je crois que cette musique l'habitait de façon charnelle. Alors, ce qui est quand même étrange quand on pense qu'il souffrait d'une maladie depuis sa naissance. Et donc, quand on sent l'énergie extraordinaire qui nous communique aujourd'hui encore à travers les siècles, on se demande comment ce personnage aussi souffreteux, certainement pas très gros, pas très grand, enfin c'est comme ça que je me l'imagine, pouvait développer une telle énergie.
Quand je pense à Vivaldi, je dirais un physique gracile, je dirais un physique tourmenté par l'infirmité, par la maladie qu'il avait. Donc je dirais un physique d'enfant.
Je souffre d'une maladie tenace qui m'empêche de demeurer debout plus de 5 minutes. Après quoi, une douleur immense me traverse la poitrine et me fait tousser comme un damné. Je dois aussitôt m'asseoir ou alors m'allonger et croyez-moi, j'en suis très malheureux.
Léonore de Recondo.
Il y a un très beau portrait qui est une peinture à l'huile où on le voit de profil avec vraiment un nez extrêmement busqué et sa perruque frisée. Une très belle perruque blanche et il est assis, il tient son violon.
Je pense que ce qui ressemble à Vivaldi le plus, c'est cette caricature qui a été faite par une caricaturiste à Rome très connue qui s'appelait Gezzi.
Suzanne Orlando, musicologue.
On voit un homme de profil avec un énorme nez, un énorme menton et qui est vraiment pas beau. Mais je pense que c'est fidèle ça. La caricature est presque toujours fidèle, exagérée mais fidèle.
Je préfère les caricatures.
Amandine Beyer, violoniste.
J'aime la force qui s'en dégage. C'est un rapport avec ce que je sens dans la musique de Vivaldi. C'est vraiment une musique souvent esquissée. Peut-être il va pas peindre tous les détails. Peut-être il va pas peindre toutes les couleurs ou tous les poils de la fourrure, mais il y aura toujours le geste.
Patrick Barbier.
L'époque baroque, c'est une époque qui a vraiment pris en compte l'éducation des enfants pauvres et orphelins, et notamment l'éducation musicale. À Vienne, on pouvait entrer au convict, dans le chœur qui chantait tous les jours la messe de l'empereur. Vous pouviez être un fils de paysan ou d'artisan. Si vous aviez une belle voix, vous étiez recruté dans le chœur de l'empereur. Et donc, vous aviez une éducation magnifique, totalement prise en charge. Si vous pensez à Jean-Sébastien Bach, c'est la même chose. Il était orphelin et il est allé au Mettenchor de Lüneburg, dans le nord de l'Allemagne, parce qu'il avait une belle voix, et là, il a eu des études absolument dignes du Conservatoire de Paris aujourd'hui, entièrement prises en charge, et ça lui a pas coûté un centime. Donc là, on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a à Venise 4 maisons de charité, qui au XVIe siècle étaient seulement des maisons de charité, et qui, à partir du XVIIe, on est en plein dans l'éclosion de la contre-réforme catholique, où il faut que l'Église catholique, excusez-moi l'expression, en mette plein la vue, hein, et il faut pour ça de la musique magnifique partout, tous les jours, dans tous les lieux importants. Et là, on va se dire, mais après tout, toutes ces orphelines qui sont là, mais pourquoi ne pas éduquer dans la musique celles qui sont les plus douées? Et voilà comment, au cours du XVIIe et encore plus au XVIIIe, on va avoir 4 maisons exceptionnelles pour la formation musicale des jeunes filles qui vont être formées par les plus grands maîtres de l'époque, dont Vivaldi à la Pietà, et qui vont faire que l'Europe entière va venir écouter ces jeunes filles dans les hospédales.
Ayant jugé qu'il est nécessaire que les filles du chœur soient mieux instruites et qu'il faut donner du prestige à ce lieu pieux, la charge de maître de violon étant vacante, nous déclarons que Don Antonio Vivaldi est accepté comme maître de violon avec l'honoraire de 60 ducats par an. La pieuse congrégation étant convaincue qu'il mettra tout son talent au service de l'hospice pour le plus grand bien des filles du chœur.
6 mois après avoir été ordonné prêtre, Vivaldi est nommé maître de violon à la Pietà. Cette institution est déjà réputée pour sa maîtrise de la musique vocale, mais le nouveau directeur de la chapelle musicale, Francesco Gasparini, souhaite donner un nouvel élan à la musique instrumentale et renforcer le pupitre des violons. Vivaldi se trouve être le candidat idéal et le jeune homme se voit offrir son premier salaire fixe. À l'enseignement du violon dont il a la charge s'ajoute la composition. Pendant 20 ans, Vivaldi va composer des centaines de pages pour ces jeunes orphelines qui profitent ainsi du fruit de son énergie créatrice.
La Pietà recueillait les enfants, souvent des orphelins. Il n'y avait que des jeunes filles qui avaient été abandonnées, des enfants illégitimes, des enfants de mères prostituées. Et celles qui avaient l'aptitude étaient formées à la musique, soit comme musicienne, comme instrumentiste, soit comme chanteuse.
Jordi Savall, violiste et chef d'orchestre.
Venise était une république libre et ils étaient aussi très libres aussi dans les relations amoureuses. Donc il y a eu pas mal d'enfants qui naissaient en dehors de mariage. Et donc ces enfants étaient souvent accueillis dans ces lieux. Mais il y avait aussi enfants des familles nobles qui étaient là parce qu'ils recevaient une très belle éducation.
Patrick Barbier.
On va donc sélectionner ces jeunes filles quand elles ont 8, 9, 10 ans pour voir celles qui ont des dons. Et on va leur enseigner la musique ou le chant sous toutes ses formes, du matin au soir, avec des très très grands maestres, di cappella, comme on dit. Ces grands maîtres sont des compositeurs, sont des gens qui créent des opéras au théâtre, des oratorios, qui sont maîtres à Saint-Marc de Venise. Et donc, elles vont avoir une formation tout à fait étonnante. On est sur peut-être 60 à 80 jeunes filles seulement, sur 2000 pensionnaires. Donc 80 sur 2000, vous voyez que c'est une petite minorité. Le groupe majoritaire, c'est évidemment malheureusement pas le groupe des musiciennes, parce que toutes les jeunes filles sont quand même loin d'avoir des prédispositions pour l'instrument ou le chant. Donc ces jeunes filles, qu'on appelle les filles del comune, vont faire des travaux qui sont ceux des jeunes filles de l'époque, c'est-à-dire elles vont faire des travaux de dentelle, de couture, de broderie, elles vont aussi faire le ménage, la cuisine et tout l'entretien de l'ospedale. Je tiens bien à préciser qu'il n'y a aucun caractère de monastère, hein. Ce ne sont pas du tout des jeunes religieuses qui sont destinées à être des nonnes, pas du tout, c'est vraiment entre la maison de charité et le conservatoire.
Pour Vivaldi, ça a été une vitrine incroyable. Alors, ça montre d'abord une chose, c'est que Vivaldi, en dehors d'être un virtuose exceptionnel, était un pédagogue incroyable. Certains de ses plus difficiles concertos sont dédiés à certains des élèves. Donc, ça montre un peu le niveau musical de ces orphelines de la Pietà.
Vivaldi ne pouvait qu'être stimulé par des jeunes filles comme celle-là.
Patrick Barbier.
Et c'est pour ça qu'il va pousser très, très, très loin son enseignement et très loin le niveau de ces jeunes filles. On a des témoignages de visiteurs étrangers qui viennent à Venise au tout début du 18e et ils nous disent « c'est incroyable le niveau de ces jeunes filles, c'est absolument fabuleux ce qu'on entend ». Et en fait, ça correspond aux années où elles ont été prises en main par Vivaldi. C'est pour elles qu'il écrit ces concertos, ces fameux concertos qu'on joue partout aujourd'hui, avec des instruments qu'on n'attendait pas chez les jeunes filles, du trombone, de la trompette, du basson, des instruments réputés quand même, très sonores et pas très féminins, elles en jouaient tout pareil et avec un excellent niveau. Donc, il les stimule, il écrit pour elles des choses qui sont plus difficiles. Par exemple, la plus grosse orchestration jamais écrite par Vivaldi, c'est un oratorio qui s'appelle Judith Triomphante. Et quand on voit la difficulté et la virtuosité des airs solistes de cet oratorio, qui est chanté aujourd'hui par Cecilia Bartoli et les plus grandes cantatrices, on se rend compte, en fait, que toutes les solistes de Vivaldi, ces jeunes orphelines, elles avaient le niveau de Cecilia Bartoli, si on veut aller par là. Donc, je crois qu'il les a poussées très 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 loin dans leur technique, leur virtuosité, leur qualité d'interprétation. Oh,
Dans une Venise rythmée par les fêtes religieuses, les églises sont des lieux qui restent ouverts tout au long de l'année, même pendant le carême, contrairement aux théâtres qui, eux, ferment leurs portes à cette occasion. Elles sont donc des lieux de création permanente. C'est dans l'église qui jouxte l'orphelinat de la Pietà que se donne rendez-vous toute la société vénitienne pour assister au concert gratuit donné par ces jeunes filles surdouées, dirigées par Vivaldi. Chaque dimanche et jour de fête, une quarantaine de jeunes filles, toutes de blanc vêtues, avec un bouquet de grenades accroché à l'oreille, donnent à entendre ce qui se fait sans doute de plus beau dans toute la péninsule. Les visiteurs étrangers s'y ruent eux aussi dès leur arrivée sur les terres vénitiennes, tels Frédéric IV, roi du Danemark et de Norvège, le prince électeur de Saxe ou encore l'écrivain Charles de Brosse. À l'occasion de ces visites extraordinaires, on imagine aisément Antonio Vivaldi empoigner son violon et dévoiler son génie improvisateur, jouant ainsi un rôle incontestable dans l'édification de la brillante réputation de cette institution reconnue désormais bien au-delà des frontières de la péninsule. Léonore de Recondo.
La grande particularité de la Pietà pour protéger l'honneur de ces jeunes filles, c'était qu'elles n'étaient pas à vue. Elle jouait en tribune, derrière des grilles en fer forgé pour que le son passe. C'est un concert où on ne voit pas les musiciennes. C'est quand même rarissime en général, quand on va au concert, c'est quand même pour voir les corps. Et là, on les imagine sans les voir. Il y a cet alliage de beauté, de mystère, qui est de ne pas voir les interprètes, et puis d'excellence de ces instrumentistes. Elles avaient cette aura mystérieuse qui a engendré énormément de fantasmes. Je pense que ça a énormément influé sur le prestige de ces concerts, sur le prestige de ces jeunes femmes. Il y en avait certaines qui étaient très très connues et qui se faisaient un peu d'argent, ou à qui on offrait des cadeaux.
La grande tradition de l'Église catholique, c'est que les femmes ne chantent pas en public. Nulle part en Europe, dans l'Église catholique, les femmes ne chantent. Donc là, on fait une exception parce que c'est un groupe de jeunes filles qui sont cachées derrière des grilles et qui sont une telle spécificité vénitienne que là, on autorise tout à fait ça.
Ce qui me désolait étaient ces maudites grilles qui ne laissaient passer que des sons et me cachaient les anges de beauté dont ils étaient dignes. On me présenta, l'une après l'autre, ces chanteuses célèbres, dont la voix et le nom étaient tout ce qui m'était connu. Sophie, elle était horrible. Katina, elle était borgne. Bettina, la petite Vérole l'avait défigurée. Presque pas une n'était sans quelques notables défauts. J'étais désolé. Durant le goûter, elles s'égayèrent. La laideur n'exclut pas les grâces. Je leur en trouvais. Je me disais, on ne chante pas ainsi sans âme. Elles en ont. Ma façon de les voir changea si bien que je sortis presque amoureux de tous ces laiderons. Jean-Jacques Rousseau.
Agnès Varda, cinéaste.
J'ai toujours eu un sentiment très vif de l'injustice faite à ces femmes, de l'aliénation, tout ce que ça représente en point de vue social, enfin en point de vue mœurs. Et j'ai toujours été très touchée par la musique étant pour elles la seule expression, le seul cri, la seule vie.
Ce qui m'intéresse beaucoup sur cette période et cette institution-là, c'est le rapport des femmes dans la société et l'instruction des femmes à un certain moment dans la société, comment on sort les femmes de la rue. Donc de savoir qu'un grand compositeur, violoniste va entrer dans cette institution-là et dans cet espace féminin et éduquer ces femmes, là il y a un terreau romanesque exceptionnel. Alors, est-ce qu'on peut dire que Vivaldi est féministe? Sûrement. Il fait partie de ceux qui ont permis aux femmes de s'émanciper dans un moment où la condition des femmes était d'avoir très peu d'instruction. Donc là, instruire, c'est collaborer, et collaborer, c'est donc être féministe.
Si la Pietà est un gage d'émancipation pour ces jeunes filles, ce lieu sert également de laboratoire musical pour Vivaldi. Ses muses éveillent sa créativité au quotidien. Si l'on ajoute à cela les soirées passées à l'opéra avec son père, cela donne très certainement à Vivaldi l'élan nécessaire pour se lancer dans l'étape suivante de sa carrière, à savoir se faire un nom dans le monde de l'opéra. De sa plume, il va signer des airs qui marqueront à jamais l'histoire de l'opéra et qui participeront à la construction de son mythe. L'opéra où quand les portes des théâtres s'ouvrent au prêtre roux, voici le menu de notre prochain épisode.
Antonio Vivaldi, Les Saisons du plaisir, une saga de Saskia Deville, réalisée par David Travailleur. Lecture, Marc Saez et Guillaume Potier. Collaboration éditoriale et documentation sonore, Aline Billette. Assistance de Lina, Mylène Touchet, Mixage, Mathieu Tourin. Antonio Vivaldi, Les Saisons du Plaisir est un podcast original de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.